Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la forêt des possibles au 88.4 sur Radio Galère. Nous sommes le mercredi 18 mars en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en direct demain de 9h à 10h et très vite sur vos plateformes préférées. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leur engagement et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Ce soir dans notre forêt, une présence un peu particulière, celle d'une biche. Une biche qui traverse les sous-bois, attentive, vive, insaisissable. Une biche qui ne fuit pas mais qui fait face, qui observe, révèle et qui parfois nous met face à ce que l'on ne préférerait ne pas voir. Car dans cette forêt, tout n'est pas toujours paisible. Il y a aussi des déséquilibres, des silences, des violences invisibles. Et certaines présences sont là pour nous les rendre évidentes, pour ouvrir des chemins de parole, pour transformer les rapports de force. La biche volante, ce n'est pas une compagnie qui se contente de raconter des histoires. Elle les met en débat, elle nous y implique, elle nous invite à rejouer le réel pour mieux le transformer. À travers le Théâtre Forum, elle crée des espaces où chacun et chacune peuvent reprendre du pouvoir face aux violences sexistes et imaginer d'autres issues. Je m'appelle Jeanne Ray et ce soir avec nous en régie, Elissa Guillon. Un bonsoir timide. Et nous recevons Justine Hay. Bonsoir Justine.
Bonsoir.
Justine, tu es comédienne, metteuse en scène, autrice et fondatrice de La Biche Volante. Avant de parler de la compagnie, on aime bien à la forêt avoir un peu des éléments d'identification. Donc on aimerait bien savoir un petit peu quel est ton parcours, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ?
Oui, avec plaisir. Bah, je suis ravie d'être là, en tout cas au studio avec vous ce soir. Moi, j'ai un peu un parcours à la croisée de deux chemins. J'ai toujours eu envie de changer le monde. Ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais enfin voilà, en tout cas d'essayer de vivre dans un monde plus juste. Bon, je m'appelle Justine, hein, c'est pas pour rien. Ça vient de la justice. Et du coup, j'ai commencé par faire des études à Sciences Po pour essayer de travailler dans l'humanitaire et spécifiquement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai été finalement un peu déçue par plein de limites que j'ai rencontrées. Et à côté de ça, dans ma vie, il y avait toujours eu le théâtre en tant que loisir. C'était un endroit très important pour moi, même d'un point de vue personnel. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que c'était possible par le théâtre d'essayer de faire cette vie où j'avais envie de changer des choses, de parler de choses, de m'exprimer. Et du coup, je me suis formée au théâtre. Et après, j'ai découvert le Théâtre Forum, qui est donc vraiment à l'intersection, qui est vraiment un théâtre, mais d'action et de justice sociale. Et par la suite, j'ai créé ma compagnie donc en 2016, qui s'appelle donc La Biche Volante, qui est le féminin du cerf-volant, pour le fun fact. Et voilà, depuis lors, du coup, je travaille vraiment à l'intersection, c'est-à-dire par le théâtre, mais toujours sur ces sujets d'égalité femmes-hommes de différentes manières et puis avec différents publics.
Et tu parlais du Théâtre Forum, j'en parlais un petit peu aussi en introduction. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste, cette notion-là du Théâtre Forum ?
Oui, bien sûr. Le Théâtre Forum, ça s'appelle aussi le théâtre de l'opprimé et ça a été inventé il y a des années, dans les années 70, par un Brésilien, un monsieur qui s'appelle Augusto Boal. Et donc son idée, en fait, il a à la fois compilé plein de choses qui existaient déjà, donc dans plein d'exercices, dans un livre qui s'appelle « Jeux pour acteurs et non-acteurs ». Et l'idée, justement, c'est que tout le monde peut faire du théâtre. Et surtout, l'idée, c'est de parler donc des oppressions, donc de toute forme de domination, tout moment où il va y avoir un oppresseur, une oppresseuse et des opprimés. Et l'idée, c'est de... À la fois, on fait du théâtre, donc on joue des scènes, sur scène, avec des acteurs, des actrices, mais aussi qu'on peut modifier les scènes. Donc ça va être des scènes, par exemple, je sais pas, dans mon cas, c'est souvent sur des scènes de violence sexiste ou sexuelle. Et l'idée, c'est qu'on représente une scène qui est vraiment arrivée. Et après, on propose aux spectateurs, qu'on appelle d'ailleurs les spectateurs ou les spectatrices. Donc, ils sont à la fois spectateurs et acteurs ou actrices. Et on leur propose de monter sur scène et de remplacer un des personnages et de rejouer la scène en essayant de l'améliorer quelque part. Donc, ça permet vraiment de jouer sa vie, enfin, d'essayer d'avoir... d'agir sur scène pour agir plus tard. C'était vraiment ça l'idée de Boal. Et après, le Théâtre Forum, c'est quelque chose qui a été, enfin maintenant, qui est fait par plein de compagnies, de plein de manières un peu différentes. Chacun le fait un peu après à sa sauce, mais voilà, c'est de là que ça vient.
Et pour toi, ça avait plus de sens de pratiquer ce théâtre-là plutôt que de suivre un peu la voie du théâtre plus classique dans un schéma où on apprend juste du texte et on va le performer
Ouais, c'est ça. En fait, c'est, disons qu'il y a deux choses. C'est que j'ai commencé à faire du théâtre, voilà, un peu du théâtre, quoi. Et je me suis rendu compte que même si j'aimais bien faire du théâtre, j'avais vraiment besoin qu'il y ait un véritable sujet. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose qui m'anime, qu'on parle de quelque chose qui vraiment me prenait aux tripes. Dans mon cas personnel, je sais qu'il y a des gens qui vont aimer le théâtre plus pour autre chose. Et du coup, moi, j'ai décidé deux choses. J'ai décidé à la fois que les thématiques qu'on traiterait seraient toujours autour de l'égalité femmes-hommes. Donc des fois c'est des spectacles qui sont pas du tout des spectacles de théâtre forum, qui vont être des spectacles classiques de théâtre, mais qui vont en tout cas traiter de cette problématique là et à côté d'utiliser cet outil qu'est le théâtre forum par exemple pour des ateliers qui sont liés au spectacle ou qui sont pas nécessairement liés au spectacle d'ailleurs, mais pour aussi toucher d'autres publics. Mon idée c'était aussi je me suis dit le théâtre c'est très intéressant, mais j'ai moi ce qui me plaît dans la vie c'est de toucher le plus de gens possible et pas juste de faire du théâtre pour les théâtreux ou pour le public qui a les moyens et l'envie d'aller dans une salle de spectacle. Et le Théâtre Forum, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça va toucher... moi, j'en ai fait beaucoup dans les écoles, par exemple. On peut aussi en faire... enfin, c'est pas ce que j'ai fait, mais ça se fait dans les prisons, dans les hôpitaux. Enfin, ça se fait n'importe où et avec n'importe qui. Et ça aussi, je trouvais que ça donnait du sens, vraiment.
Sur une pluralité aussi de thématiques qui en font vraiment... un outil de justice sociale.
Ouais, tout à fait. Ça peut être sur n'importe quoi, sur l'écologie, les rapports managériels, sur le harcèlement scolaire. Enfin voilà, c'est vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qui est intéressant dans le Théâtre Forum, c'est que c'est vraiment un outil en fait. C'est une mallette à outils. Et le vrai pourquoi ça perdure encore aujourd'hui, alors que ça a été créé dans les années 70, c'est parce que Boal, il a vraiment créé. Une technique un peu précise, quoi, de dire voilà, c'est ça l'étape 1, l'étape 2. Il a des listes d'exercices numérotés. Et donc, du coup, c'est aussi l'idée que ça puisse être transmis. C'est aussi intéressant de dire, par exemple, des gens qui vont travailler, des acteurs sociaux, par exemple, qui vont travailler, j'en sais rien, avec des jeunes en difficulté, eh bien, ils peuvent aussi suivre une formation de Théâtre Forum et eux, aller l'appliquer. Donc, c'est aussi ça, c'est du théâtre vraiment accessible, quoi.
Et toi, tu t'es formé un peu comment sur. Sur ces pratiques-là
Moi, je me suis formée... Il y a un centre à Paris qui s'appelle le Centre du Théâtre de l'Opprimé, qui est... Alors, à l'époque, je pense que c'est toujours le cas, mais qui était dirigé par Rui Frati, donc qui est un Brésilien. Et donc, je m'étais formée avec lui, et notamment avec Joël Anderson, qui travaille à la... Je crois que c'est la Royal Speech of London, je ne sais pas, c'est à Londres. Et après, donc, je me suis un peu formée là-bas, d'abord au Théâtre Forum de manière générale. Après, j'avais suivi une formation plus spécifique sur la question des violences faites aux femmes, justement. Et donc ça, c'était à Paris. Et ensuite, je suis allée à Rio, et où il y a donc un centre de théâtre de l'opprimé, un peu le centre initial. Et en Argentine aussi, j'en avais un petit peu fait, parce qu'en Argentine, il y a Julian Boal, qui est le fils, donc le fils ou le petit-fils, non, je crois que c'est son fils, de Augusto Boal, qui continue aussi. Donc il y en a pas mal aussi en... C'est assez pratiqué en Argentine et au Brésil, quoi. Donc, voilà.
Oui, un berceau aussi de... Enfin, beaucoup de dictatures et donc besoin d'outils de démocratie.
Oui, tout à fait. Ça a été créé, effectivement, pendant la dictature. Et même, il y a plusieurs volets, d'ailleurs, dans le Théâtre Forum. Il y a à la fois le Théâtre Forum, mais il y a aussi le Théâtre démocratique, je crois que ça s'appelle, ou le Théâtre législatif, où l'idée, c'est même, des fois, de faire des scènes et après, d'inventer des lois, des nouvelles lois. Et donc oui, c'est vraiment pour ça, quoi.
Oui, aller un peu loin dans la projection et les futurs souhaitables, c'est des choses qu'on aime bien, qu'on aime bien dans l'émission. Donc tu crées la compagnie La Biche Volante en 2016.
Ouais.
Et du coup,
ça
depuis
bientôt 10 ans.
Bientôt 10
ans. En décembre 2016.
Ouais, ça fait un sacré bout de chemin. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette compagnie? Quel genre de spectacle ou de format vous pouvez développer? C'est quoi la Biche ?
Alors la Biche, c'est une compagnie qui a eu plusieurs projets. Ça varie. On a collaboré avec plein de personnes, avec majoritairement des femmes. Il y a eu quelques hommes, quelques assistants à la mise en scène ou quelques régisseurs, mais c'est en grande majorité des femmes. Et donc l'idée, ça a été autour de spectacles. Donc il y en a eu 4. Et autour d'ateliers, donc à la fois dans les écoles ou dans les administrations publiques, dans d'autres endroits, toujours donc sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. Et il y a eu aussi un petit peu une évolution de la compagnie. Au début, c'était beaucoup du théâtre en salle. Les deux premiers spectacles, c'était vraiment du théâtre pour la salle. Et puis petit à petit, moi, ça m'est apparu de plus en plus pertinent aussi qu'il y avait un besoin, surtout sur quand on parle de la thématique des femmes et de la puissance que peuvent avoir les femmes d'occuper l'espace public. Donc les derniers spectacles sont plutôt des spectacles qui sont faits pour la rue ou pour des espaces atypiques où on crée des choses in situ. Voilà, et voilà, je sais pas.
Non, mais tu me disais que vous aviez fait un atelier pour le festival Je crains des gains à la Friche.
Ouais, tout à fait. Ça, c'était autour du dernier spectacle. Donc en ce moment, le dernier spectacle qui est en création s'appelle Délicatesse. Ou le procès de l'ogresse, et donc c'est une ogresse. C'est un personnage d'ogresse qui va défendre des femmes qui ont été offensées, donc qui à la fois va raconter un petit peu des récits. L'idée, c'était de donner la parole. C'est des paroles réelles qu'on a collectées, qu'on est venu nous confier, qu'on a réécrit. Donc à la fois, elle raconte ces récits d'offenses que des femmes ont subies, et en même temps, elle propose une façon de réparer, de rendre justice à ces femmes en dévorant leurs bourreaux. Donc du coup, elle les cuisine de manière assez festive et ludique, et elle invite le public à un joyeux banquet. Donc il y a une dimension complètement cathartique. Et l'idée de ce spectacle, c'est donc nous, on est parti de toutes les mythologies de femmes. Il y a beaucoup de mythologies en fait de femmes justement qui sont un peu impressionnantes. Il y a par exemple même, je sais pas, Médée. Je pense Caraba la sorcière, il y en a plein comme ça, des figures de femmes qui sont assez effrayantes en fait, et en même temps qui sont hyper fascinantes, et qui à un moment en fait elles ont décidé de pas juste être victimes. Je vais reprendre les paroles, je trouve ça intéressant, le spectacle d'avant s'appelait Comme la chienne, et c'est d'une autrice qui s'appelle Louise Chenevière, et elle disait quelque chose qui est dans son livre. Au début, il y a les dépossédés, et après il y a les possédés, et du coup il y a ça au début, d'avoir les femmes qui ont été dépossédées de leur corps, de leurs droits, de plein de choses, et après elles deviennent possédées. Et donc il y a un peu cette idée là de faire un personnage un peu fou quoi, et cathartique. Et du coup, avec Je crains des gains, on présentait l'atelier qui va avec le spectacle, où on propose de créer, que chaque personne puisse s'emparer de cette idée de mythologie personnelle, et de créer sa propre ogresse, sa propre déesse, sa propre super-héroïne, pour justement trouver un moyen cathartique voilà, de se venger, de réparer une offense. Et vu que c'est le théâtre, c'est moins... Enfin, ça a moins, moins de conséquences. Voilà, c'est moins grave, exactement. Ça a moins de conséquences que si on se vengeait dans la vraie vie.
Et la figure du monstre, j'ai l'impression qu'elle est assez apparente dans ton travail sur l'ogresse, sur aussi comme la chienne. Et tu me disais que tu avais aussi des ateliers qui étaient dédiés à des publics un peu différents, des enfants, des autistes. Comment en fait tu arrives à articuler cette figure-là ? Comment c'est un vecteur ou c'est un véhicule pour le théâtre auprès des publics comme ça ?
Mais en fait, ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que c'est à la fois extrêmement réel, ça part du réel, ça part de... Quand on est sur scène, c'est nos corps... Donc c'est à la fois très réel et en même temps c'est un espace complètement protégé, complètement utopique. Et du coup ça permet justement de sortir des monstres qu'on n'a pas le droit de sortir dans la vraie vie, mais qui sont à l'intérieur de nous, et s'ils restent à l'intérieur, ils risquent un peu de nous dévorer en fait. Et l'idée du théâtre, et l'idée primaire du théâtre, donc de la catharsis quoi, qui est vraiment la base du théâtre à l'époque de Socrate quoi, genre 400 avant Jésus-Christ quoi, c'est vraiment ça, c'est la catharsis à la base, c'est cette idée là c'est l'idée de dire on va présenter sur scène la monstruosité humaine pour que justement ça soulage tout le monde, ça soulage le public, et que ça fasse un peu de la régulation sociale. Et nous on le fait, il y a un atelier qu'on fait en maternelle, donc avec les tout petits, qui s'appelle Monstre-moi ta colère. Et donc cet atelier, c'est un atelier qu'on fait avec la scénographe et costumière de la compagnie qui s'appelle Tiffaine Petit, et ensemble, en fait, on propose aux enfants de sortir leur colère sous forme d'un petit monstre. Et donc, ils fabriquent chacun un masque. Et ensuite, on crée ensemble une chorégraphie de la colère. Et après, ils font une espèce de parade dans la cour pour les autres élèves. Et c'est aussi pour leur expliquer. Moi, j'ai été quelqu'un de très en colère. Je le suis un peu moins en vieillissant. Mais j'étais notamment une enfant, une adolescente et une jeune femme en colère. Ça peut être un moteur d'action, mais ça peut être aussi violent, quoi, pour l'entourage et pour soi-même. Et je crois que j'aurais aimé, moi, enfant, qu'on me dise « Ok, t'es en colère. Le problème, c'est pas que tu sois en colère. Le problème, c'est comment tu gères cette colère-là et qu'est-ce que t'en fais. » Et du coup, c'est un peu cette idée-là, de proposer aux enfants, pas de leur dire « La colère, c'est mal. On veut pas en entendre parler. » Mais de dire « Ok, t'es en colère. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'on en fait ?»
Et ils kiffent, les enfants ?
Ils adorent. ils adorent et ils sont très mignons. Après, avec leur petit masque. Oui, non, c'est très chouette.
Et tous ces ateliers, que ce soit avec les enfants ou avec d'autres publics, bon, ça draine quand même, j'imagine, vachement d'émotions qui sont aussi lourdes, qui peuvent être pesantes. J'ai l'impression que tu ménages un sas un peu pour discuter de ces émotions, faire un peu un retour sur ce qu'on a pu ressentir pendant les spectacles ou pendant l'atelier. Ouais. Est-ce que tu peux...
Oui, tout à fait. C'est en fait au début de la compagnie, très rapidement, je me suis rendu compte que bon, j'allais parler que de sujets un peu hyper lourds, hyper difficiles. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que la compagnie s'appelle La Biche Volante. C'est pour la biche, c'est aussi un animal justement hyper pur, mais qui peut aussi être victime facilement. Et le fait qu'il s'envole, c'est un peu pour ramener de la légèreté dans tout ça et de l'espoir et de la libération. Et du coup, je me suis dit, OK, on va traiter de ces sujets-là, qui sont des sujets difficiles. On va assumer de traiter de ces sujets-là. Mais du coup, on va aussi le faire avec délicatesse. Mais pour de vrai, c'est aussi pour ça que le dernier personnage s'appelle comme ça. Délicatesse avec les gens, avec leurs émotions. Et c'est pour ça que un spectacle n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'il y a à minima, il va y avoir au moins un bord plateau, une rencontre après le spectacle. Quand c'est possible, il y a des ateliers avant ou après qui l'encadrent. Et c'est un peu comme ça que sont construits les spectacles. Pour moi, un spectacle idéal, dans mes spectacles en tout cas, c'est on a rigolé, on a pleuré et on sort en ayant envie de discuter, quoi. Et donc l'idée, c'est d'avoir un temps de parole après les spectacles. Par exemple, dans le dernier spectacle, donc Délicatesse, comme c'est aussi beaucoup le repas, et c'est pour ça qu'on a choisi le repas, parce que c'est aussi un endroit où on parle, quoi, où on mange, mais on délie les langues, on délie les cœurs, il y a tout qui peut sortir, quoi. Et en général, on donne à manger à la fin du spectacle. On prépare une soupe à l'oignon pendant le spectacle et à la fin, on mange. Et ce qui est très, très agréable, c'est que du coup, les gens viennent et viennent discuter, en fait. Les gens viennent boire leur petit bol et en même temps, ils parlent. Et c'était aussi d'ailleurs un peu l'idée de ce spectacle, c'est qu'on me racontait beaucoup de choses, notamment au spectacle. J'ai dit, OK, il faut en faire quelque chose. Et donc, oui, c'est hyper... Enfin, c'est même indispensable. Enfin, c'est une des idées de la compagnie qui est forcément un temps pour recueillir les paroles, de ne pas arriver, d'ouvrir un peu la boîte de Pandore et de partir comme ça. On fait le service après-vente.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que les spectacles ils peuvent aborder aussi des sujets un peu tabous. Est-ce que tu as eu des retours parfois de gens qui étaient trop ébranlés par le spectacle ou en désaccord, en rupture
Ouais, moins que ce qu'on pensait. J'ai l'impression que nous, on a toujours un peu peur au début. Et on met des trigger warnings au début, on prend beaucoup soin. Et je pense justement, on est un petit peu à prévenir au début. Et souvent, les gens sont un peu « Ah, ben en fait, ça allait ». Et finalement, je crois que ça fait vraiment du bien aux gens d'en parler quand même. Cet été, on a joué à Apt et c'était vraiment assez rigolo. Moi, je leur ai dit, bon, je reviens et si vous voulez, s'il y en a qui veulent rester discuter, on peut rester discuter. Et quand je suis revenue, tout le monde était là et en fait, tout le monde n'attendait que ça, en fait, de pouvoir parler de ce sujet-là. Donc, sincèrement, et ce qui est rigolo, c'est que les gens se répondent entre eux. Par exemple, à ce moment-là, il y avait une personne qui commence à dire, oui, mais quand même, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré ? Ou est-ce que pourquoi parler de ça ? Pourquoi parler de ce sujet ? Et en général, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas moi qui réponds, c'est que ça va être une autre personne du public qui va dire, ah, mais si, évidemment que c'est un vrai sujet. Et après, paradoxalement, ça a pu être... j'estime que c'est une compagnie féministe, moi je suis féministe, mais parfois on aborde finalement des choses qui sont pas qui sont un peu peut-être compliquées parce qu'on va parler aussi de la violence des femmes, de la violence réactionnelle des femmes parce qu'elles ont subi des violences, comment elles ressortent, mais ce qui peut être un peu compliqué dans la parole justement pour pas être repris, je sais pas, par pour pas, oui, j'ai pu avoir des hommes qui me disaient, ah ben oui, mais finalement c'est pareil, les hommes et les femmes, tout le monde est violent et tout le monde est violenté. Je dis, non, c'est pas du tout ça le message qu'on veut faire passer. Mais du coup, il y a cet endroit-là un peu de, où il faut être un peu précautionneux. Et notamment, on avait une discussion dans un festival qui s'appelait Dangereuse Lectrice, qui était à Rennes avec donc le spectacle Comme la chienne. Et il y avait l'autrice qui était présente. Et au début, la salle était finalement, donc c'était quasiment que des féministes dans la salle. Et au début, c'était assez tendu presque. Et il y avait un peu ce côté-là, mais finalement, l'image que vous donnez des femmes, qu'il faut qu'elles soient violentes aussi, etc. Et en fait, petit à petit, à mesure de la discussion, des personnes du public ont dit, mais moi, en fait, ça me fait du bien de parler de ça. Et par exemple, il y a un moment, une mère qui a envie de tuer son enfant dans le spectacle, et donc qui parle de cette pensée-là, à cause de la jalousie par rapport à la vieillesse, par rapport au fait de se dire, ah, ma soeur, ma fille est encore jeune et encore belle, et moi, ma vie est finie. Et y a une dame qui avait dit, mais moi, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que bien sûr que je l'ai pensé, et c'est tellement honteux que c'est impossible à dire. Et en fait, ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut en parler, justement pour aussi s'en libérer, pour aussi voir que c'est pas forcément, enfin c'est pas vrai quoi, mais ça fait du bien de pouvoir au moins parler des pensées qui viennent sans tabou quoi.
Ça a l'air intense, ça donne envie d'aller voir tous les spectacles.
Venez, venez.
Tu parlais de l'autrice de Comme la chienne. Moi, j'ai un peu envie de parler de ton processus créatif. Il y a des sujets qui reviennent, mais il y a quand même une variété un petit peu de thèmes. Il y a surtout une variété des formats, une variété des publics avec lesquels tu travailles. Comment t'articules un peu tout ça? Quel est ton process créatif avant de monter un spectacle, un atelier?
Ce que je te disais tout à l'heure, c'est les spectacles, ça a toujours été qu'en fait je lis un texte et je me mets à pleurer et du coup je dis ah, là ça me touche à un endroit profond, il y a quelque chose à faire. Et donc c'est ce qui s'est passé, et notamment par exemple Comme la chienne, donc, qui était un spectacle donc, avec ces quatre que je mets en scène et que j'ai adapté mais où je joue pas dedans, où il y a quatre artistes au plateau qui sont danseuses et comédiennes. Et ça, c'est quand j'ai lu le texte de Louise Chenevière, donc Comme la chienne. Même plus exactement, j'avais lu dans le journal une critique de ce livre. Et comme ça, un dimanche matin au soleil, j'ai dit, mais il a l'air incroyable ce livre. Je suis tout de suite allée l'acheter, je l'ai tout de suite lu. Je l'ai dévoré, j'ai pleuré. Et après, j'ai appelé l'autrice pour lui dire, mais j'aimerais bien adapter ton livre. Donc voilà, avec Louise Chenevière, par exemple, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, le spectacle d'avant, qui s'appelait Voyager léger ou Viajar ligero, parce que c'est du coup une autrice mexicaine. Ça, c'était un processus qui était très intéressant. C'est de mexicaines qui proposaient de mettre en relation des metteuses en scène qui habitaient à Buenos Aires. Moi, j'habitais à Buenos Aires à ce moment-là, et des autrices mexicaines. Et du coup, elle nous avait donné plusieurs textes à lire. Et j'avais eu un coup de cœur sur ce texte qui est sur le féminicide, celui-là, qui est très beau aussi, qui est un texte qui est une petite fille, en fait, qui parle à sa poupée et qui est au milieu de ses cartons dans une chambre et elle ne comprend pas ce qui se passe, elle ne comprend pas où est sa grande sœur, et donc ça, elle s'engueule un peu avec sa poupée qui a pris vie, et en fait petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, on comprend que sa sœur, elle s'est fait tuer dans la rue, parce qu'en plus au Mexique c'est une problématique encore différente qu'en France, voilà, et qu'elle va pas revenir. Et du coup j'avais trouvé cette pièce magnifique, très belle, donc pareil, j'ai dit j'ai trop envie. Et surtout, ce qui se passe en mise en scène, c'est que ça fait un peu des images quoi. C'est quand on commence à lire quelque chose et qu'on commence à avoir des images dans la tête quoi, ça donne tout de suite envie d'y aller quoi. Et pour la dernière pièce, donc la création actuelle, donc qui s'appelle Délicatesse, c'est un processus un peu nouveau pour moi, parce que du coup c'est une pièce que j'ai écrite et que je joue, donc c'est un solo, donc c'est encore une expérience très différente que de mettre en scène une équipe de comédiennes avec le texte d'une autrice. Et c'est parce que ça, j'ai senti aussi que voilà, qu'il y avait des choses. Au début, j'ai un peu écrit un texte pour une des comédiennes avec qui je travaillais. On a fait quelques résidences, mais c'était pas. Il y avait quelque chose qui marchait pas vraiment. Et on s'est rendu compte qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin aussi de passer par mon corps et qui était très. J'avais envie d'écrire aussi quelque chose de très personnel. Donc voilà, ça, c'est une expérience nouvelle et aussi, il y a quelque chose. En tant que metteuse en scène, je trouve que c'est très intéressant aussi de jouer pour ne pas oublier ce que ça fait que d'être sur scène, en fait. Et pour rester une bonne metteuse en scène aussi, je trouve que c'est très agréable d'éprouver aussi ce qu'on demande à ces comédiennes, quoi. Donc, là, j'en suis un peu à cet endroit-là actuellement.
Tu te reverrais diriger des comédiennes en tant que juste metteuse en scène ou maintenant que tu as franchi cette étape parce que tu me disais qu'au départ, tu n'étais pas au plateau, tu étais plutôt sur la mise en scène et petit à petit...
Ouais, c'est ça. Bah, j'étais au plateau sur la toute première. La toute première, création légère en août, on était cinq et il y avait donc quatre comédiennes et moi au plateau, mais moi j'avais un petit rôle. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas, que j'avais besoin de juste diriger. Les créations suivantes, j'étais metteuse en scène et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et là, c'est un peu particulier parce que je joue et je mets en scène un solo. Donc, c'est vraiment... je veux dire, c'est pas comme jouer dans une pièce que tu mets en scène avec d'autres personnes. Et si, oui, moi, j'adore diriger et j'aimerais beaucoup rediriger. J'aimerais beaucoup... Comme la chaîne, là, c'est un peu arrêté. Et j'aimerais beaucoup le remonter l'année prochaine. Et notamment, j'avais commencé à travailler avec une chorégraphe qui est super, qui s'appelle Jeanne Giffon. Et on avait commencé, mais elle était arrivée un peu au milieu du processus. C'est-à-dire que j'avais monté le spectacle et elle était venue amener quelque chose de danser là-dedans. Et j'aimerais beaucoup le remonter. Enfin, on parle de le remonter, mais vraiment en co-direction pour que ça soit tout de suite une œuvre entre le théâtre et la danse, quoi. Donc oui, j'ai très envie de rediriger. Et aussi, j'aime bien ce que j'ai découvert petit à petit, c'est de diriger des actrices, mais de diriger aussi d'autres personnes, de diriger notamment des danseuses, ce qui est très, très intéressant. Où, j'ai aussi monté un spectacle qui était où on a mis en scène un concert, en fait. Et ça, c'est aussi très intéressant d'être au croisement des arts. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi.
Et le spectacle, là, en ce moment, sur lequel tu travailles, c'est Délicatesse.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est ce format un peu banquet, soupe à l'oignon.
C'est ça, avec un K.
Avec un K. Ce spectacle, tu aimerais bien qu'il se produise où ? C'est quoi un peu ton endroit favori, enfin, idéal pour jouer, pour porter ce message ?
Au début, pareil, c'est quand même un texte théâtral, etc. Mais finalement, ce qui nous plaît le plus, c'est vraiment le côté d'être dans l'espace public, en fait, parce que en plus, il y a quelque chose d'un peu... c'est un personnage très fantasque, quoi, donc qui est assez amusant, qui est assez grandiloquent, comme ça. Et l'idée, c'est de... Moi, l'idéal, c'est de créer un peu dans des espaces. L'idée, c'est de se dire que cette ogresse, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais elle débarque dans des endroits abandonnés. Et puis, elle croit que c'est son palais. Et elle s'installe et elle amène tout le monde à son banquet. Et puis, elle raconte tout ce qu'elle a raconté, qu'elle a vu partout dans le monde, quoi. Donc, moi, j'aime bien jouer dans plein de... J'aime bien jouer dans des espaces un peu atypiques, plutôt en extérieur, là, dans l'idée. C'est pas exclu qu'un jour, on propose une forme vraiment théâtrale un peu plus longue, parce que c'est un personnage qui est aussi intéressant dans une salle de théâtre. Mais pour l'instant, on se concentre plutôt sur cet aspect-là. Là, on va, par exemple, on va jouer plutôt dans des jardins, ou on va jouer à Marseille, mais au plan, mais le plan de A à Z, mais potentiellement dans la rue. On va jouer à Aurillac cet été. On va jouer dans un lieu qui s'appelle le Café Villageois, pareil. Enfin voilà, on aime bien aussi dans les jardins. Et puis moi je fais quand même des personnages de plus en plus qui prennent. J'aime bien le côté de l'idée d'un débordement, quoi. Et de prendre de la place et que ça soit joyeux, qu'on puisse éclabousser partout. Donc c'est pas mal d'être dehors pour avoir de la place autour.
Oui, et pour laisser une trace.
Ouais, tout à fait.
Comme la chaîne, il y avait de la poudre, des paillettes roses, laisser un peu une trace de ce qui s'est passé. C'est un spectacle que tu pourrais complètement jouer en terrasse, où tu arrives et tu t'installes en terrasse.
Ouais, ouais, tout à fait.
Et d'un coup, il se passe quelque chose.
J'aimerais beaucoup, l'idée aussi, on aimerait beaucoup participer avec Délicatesse à des comme les Orly, par exemple. Je ne sais pas si tu connais Orly, qui en a à Marseille, à Aix, c'est du théâtre en appartement. C'est super aussi, l'Orly. Et donc, on va vraiment chez les gens. Et c'est très pertinent pour l'ogresse, parce qu'il y a vraiment un côté hyper participatif et où elle se met à table avec les gens, où je pense bientôt, les gens vont découper les oignons avec nous. Et donc, il y a ça. Et c'est vrai que comme la chienne, on l'avait joué à Marseille, à la Plaine, sur la place Jean Jaurès. Et c'était pareil, c'était très agréable d'avoir à la fois du public qui était venu nous voir, mais aussi des passants qui disaient « mais qu'est-ce qui se passe ?» et qui voyaient ces filles qui dansaient, qui criaient. Et effectivement, comme tu dis, comme la chienne, il y a de la poudre rose, les poudres un peu de Hollis qu'on voit dans les Color Run. L'idée, c'était que voilà, qu'il y ait ça qui symbolise plutôt des moments de violence, en l'occurrence, mais de manière joyeuse, quoi. Et c'était, moi, j'adorais, après, quand on partait, voir toutes les traces qui restaient, les traces de poudre rose, qui sont assez inoffensives, mais qui marquent un peu l'espace public.
Si vous avez des jardins que vous cherchez à dynamiser vos après-midi, vos barbecues d'été... Vous pouvez contacter la Bijou
avec plaisir
pour recevoir Délicatesse directement chez vous. Je propose qu'on se prenne un petit moment musical,
avec
une
plaisir.
Respiration. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la chanson que tu as choisi de passer ?
Ouais, c'est un morceau, c'est un documentaire que j'ai vu au Gyptis qui s'appelle Les Filles du Nil, qui est d'un duo de réalisateurs égyptiens qui s'appelle, j'ai noté, Nadar Riyad et Ayman El Almir. Et en fait, c'est quatre jeunes femmes qui font du théâtre de rue, donc en Égypte, pour parler de plein de sujets. Donc c'est un film que j'ai trouvé vraiment sublime. Et la jeune fille qui chante, donc qui s'appelle Monica, est une de ses protagonistes de ce documentaire. Donc voilà, c'est c'est très beau.
Ça s'appelle
Panorama Barsha, qui est le nom de Barsha, c'est la ville, et Panorama Barsha, c'est le nom de la compagnie, le nom de la compagnie de ces jeunes filles.
Allez, on écoute. On est de retour, vous êtes sur la forêt des possibles, je m'installe. Ah là là, la digression de la pause nous a emporté un peu loin. Vous êtes toujours dans la forêt des possibles, on est avec Justine Hay qui nous présente la compagnie de La Biche Volante. On parle de théâtre forum et de comment le théâtre peut nous aider à nous réapproprier nos corps et nos récits et nos voix, notamment dans un cadre de violence un peu sexiste ou sexuelle. Justine, tu parlais un petit peu de tes expériences à l'international. Tu disais que tu avais quand même été un peu formée par des pratiques d'Amérique latine au niveau du théâtre. Je sais que tu as aussi une expérience et un attachement à Dakar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces démarches-là que tu as pu, enfin ces expériences que tu as pu vivre, et aussi peut-être d'une forme de soit d'universalité de la parole féminisme dans le théâtre, elle transcende les frontières, mais comment ça peut aussi être complètement différent d'un pays à l'autre, d'une femme à une autre en fait.
Mais j'ai eu une expérience. J'ai été en résidence dans un lieu qui s'appelle la Casa Belgrado à Buenos Aires, qui est un lieu super où il y a des artistes qui vivent, qui proposent, qui proposent des choses, des ateliers, des spectacles. Et c'était très riche. C'était un peu au début de mon parcours et ça m'a beaucoup aidée, notamment parce que j'ai rencontré plein de gens. Par exemple, c'est là que j'ai rencontré les Mexicaines qui proposaient des textes, etc. C'est né de cette expérience-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé en Argentine, c'est qu'il y avait... Il y a deux choses que j'ai adorées. C'est à la fois que le théâtre... le théâtre et la façon politique de faire du théâtre est très différente d'ici. C'est-à-dire qu'il y a une lutte, que ce soit les luttes politiques en général, mais du coup la lutte féministe en particulier, qui est extrêmement joyeuse, extrêmement engagée, extrêmement dans la rue. Il y a par exemple... J'ai eu la chance de participer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, il y a eu une chanson de chilienne qui s'appelait El Violador Sos Vos. Enfin, Estou, pardon, mais la version argentine, c'est ça. Et ça, par exemple, donc, j'avais participé, j'étais à Buenos Aires à ce moment-là, donc j'y avais participé à cette marche. Et en fait, c'est dingue parce que c'est à la fois extrêmement beau, même artistiquement. Il y a toute une symbolique. Par exemple, elles avaient des bandeaux noirs sur les yeux qui étaient un symbole aux victimes qui avaient pris qui étaient aveugles parce qu'elles avaient pris des flashballs dans les yeux, etc. Donc, il y a à la fois un. C'est hyper pensé artistiquement, en même temps c'est hyper engagé et c'est une façon, je sais pas, très joyeuse de faire du théâtre. Et il y a vraiment, il y a pas de frontière entre la vie personnelle, le politique et le théâtre. Il y a quelque chose qui est très très mélangé et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris et aussi dans même la façon de à la fois danser. Par exemple, en Argentine, il n'y a pas vraiment ce côté théâtre privé, amateur. Alors, il n'y a pas théâtre amateur, théâtre professionnel, en fait. C'est-à-dire que moi, je travaillais avec des gens et personne ne disait « Ah, toi, t'es pro, toi, t'es amateur. » Enfin, c'était juste des gens qui faisaient du théâtre, en fait. Mmh. Et il y a des gens qui gagnaient leur vie avec, des gens qui ne gagnaient pas leur vie avec. En tout cas, c'était tous un engagement fondamental et très souvent, c'était politique. Et au Brésil aussi, j'ai travaillé avec une compagnie de rue qui s'appelle Tanaroa, où pareil, c'était des gens qui... Il y en avait qui étaient acteurs, d'autres pas à côté. Mais en tout cas, tout le monde se retrouvait là et ça allait dans la rue et ça avait des messages à faire passer. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris et m'a beaucoup libérée aussi. Un peu des carcans aussi de passer pas que par la parole. Parce qu'en France, il y a des grands auteurs et des grandes autrices de textes. Mais du coup, des fois, moi, je trouve ça un peu limitant. Et puis, il y a quelque chose en France, moi, ce que je dis quand je donne des cours de théâtre, je commence toujours par dire, on s'en fout de ce que vous dites. Ce qui est intéressant, c'est votre corps, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous dégagez. Et ça, c'est quelque chose que... En Amérique du Sud, voilà, il y a vraiment de... Moi, j'ai fait des pièces de théâtre où je ne parlais pas une seule fois. Et du coup, enfin voilà, il y a ça que j'ai beaucoup appris. Et la façon, que ce soit en théâtre ou pas, de lutte féministe en Amérique du Sud en général et en Argentine en particulier aussi, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça extrêmement joyeux. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dedans aussi et qui sont à une place extrêmement juste. Par exemple, il y a toute une... Le foulard vert qui va être le symbole de la lutte pour le droit à l'avortement, qu'il y a plein d'hommes qui vont porter tout en étant à une juste place, mais voilà, c'est pas du tout fermé. Et puis, voilà, ça va être... C'est très mélangé, quoi. Donc ça, c'était en Argentine. Et Dakar, ça a été une expérience plus récente de ces dernières années. Et c'était intéressant parce que c'était très différent, pour le coup. Et j'ai travaillé notamment avec une femme qui s'appelle Esther Tarbango, qui est une Burkinabé. Et donc on s'était retrouvés, c'est Fatou Cissé qui est une chorégraphe de Dakar qui connaissant notre travail à toutes les deux a dit ça serait vraiment intéressant que vous rencontriez, que vous fassiez quelque chose ensemble. Et on a travaillé ensemble à Dakar dans le cadre de la Biennale de 2024. Et Esther Tarbango, le programme qu'elle a à Ouagadougou, ça s'appelle Parole de cœur et de corps. Et donc l'idée c'est vraiment de parler, que des femmes viennent parler de ce qu'elles ont vécu et qu'après qu'elles le traduisent, elle c'est une danseuse, donc elle ça va être par la danse, et après qu'elles aillent le jouer dans les marchés, donc vraiment aussi dans l'espace public. Et on a travaillé ensemble, donc moi j'ai amené un peu la partie théâtre et elle un peu la partie danse, mais finalement toutes les deux on faisait déjà un peu ça, c'est-à-dire moi je mettais un peu de danse dans le théâtre et elle un peu de théâtre dans la danse. Et c'était vraiment incroyable comme expérience, justement, de se rendre compte qu'entre des problématiques d'une femme burkinabée ou sénégalaise et française, il y a à la fois des choses qui sont tellement similaires et à la fois des choses qui sont extrêmement différentes. Et moi, ça m'a beaucoup appris aussi sur mon féminisme, et notamment en Afrique en général, je crois. Moi, je connais surtout donc Sénégal, Burkina et Congo aussi. Il y a une place, il y a une vision de la femme et du féminisme qui est très différente. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée de pouvoir de la femme dans sa maison et de dire qu'elle va utiliser ça aussi, ce qui, nous, en France, va tout de suite nous faire bondir un petit peu, de se dire « Ah, super, la femme, elle a du pouvoir au foyer, on s'en fout. » Et en fait, et c'est une vraie réalité aussi. Et c'est les femmes aussi, il y a plus d'espace uniquement féminin au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où il n'y a que des femmes qui vont parler entre elles, et c'est aussi des vrais espaces de pouvoir et d'empouvoirment, et au début ça peut être un peu complexe à comprendre moi en tout cas au début, quand on a une vision un peu occidentale et des pensées féministes occidentales, ça peut être un peu étrange au début et un peu contre-intuitif avec ce qu'on a appris. Et moi ça m'a beaucoup appris aussi, et j'ai fait aussi à Dakar, j'ai fait du théâtre forum aussi avec une actrice qui s'appelle Aïcha Dem, et c'était très important. À Dakar, j'ai toujours travaillé en binôme pour justement pas commettre d'impair, quoi, parce que justement j'étais consciente que, en plus, c'est très particulier. Moi, je suis une femme mais blanche, et du coup là on arrive aussi à un autre endroit, c'est-à-dire que en termes de domination, moi je fais partie des dominants dominantes. Et c'est très intéressant aussi en termes de position, de se retrouver à cette intersectionnalité-là, c'est-à-dire d'être « Ok, je suis une femme, et donc je vais partager avec Aïcha, je partageais le fait qu'on soit toutes les deux des femmes, mais je suis blanche. » En plus, d'autant plus une blanche à Dakar, où il y a encore une présence française néocoloniale un peu étrange, quoi. Donc c'était aussi très intéressant de se retrouver là-dessus. C'est quoi les endroits où on est toutes les deux des femmes, et c'est quoi les endroits où moi je suis une femme blanche, toi t'es une femme noire, quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui est sorti de ça, de cette collaboration avec Aïcha?
Je crois que moi, ça m'a calmée. Enfin, ça m'a appris, encore une fois, la délicatesse et d'aller doucement, en fait. Et ce qui est sorti, c'est qu'on a... Donc, on a fait une scène de théâtre forum avec les jeunes d'un quartier. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans le théâtre forum, c'est d'aller prendre la parole des gens, en fait. C'est que finalement, plutôt que ça soit en théâtre, en théâtre féministe, etc., plutôt que de dire « Ok, on va vous... » voilà une grande théorie, voilà une grande pensée, vraiment de trouver des espaces qui donnent la parole, quoi. Et c'est ça paraît bête, mais en fait c'est vraiment réel, quoi, que là où c'est intéressant, je trouve, c'est de donner la parole et des paroles qui vont pas forcément être congruentes. En plus, on va peut-être avoir quelqu'un qui va dire quelque chose et quelqu'un en face qui va pas du tout être d'accord, y compris ça peut être ça en sortant d'un spectacle ou pendant une scène de théâtre forum. Mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est de dire ok, il y a plein de visions différentes. Et aussi, si on parle de sororité, finalement, pour accéder à une vraie sororité, il faut qu'on puisse... Moi, avec Aïcha, on a beaucoup discuté. Donc, Aïcha, elle est musulmane. On a beaucoup discuté, je ne sais pas, même de polygamie, quoi. Et de se dire, OK, moi, il faut que j'arrive aussi à ne pas arriver avec mes idées toutes faites et à être capable d'écouter que ces idées sont aussi féministes que les miennes, dans le sens féministe, dans le sens... libre choix des femmes, pouvoir des femmes, enfin voilà, et égalité entre les femmes et les hommes, et sortir des idées toutes faites, quoi.
Donc je comprends bien que tu as été super inspirée par le théâtre d'Amérique latine, argentin, brésilien, et aussi tout ce qui a pu se passer à Dakar. Est-ce que tu as quand même trouvé des alliés, des structures, des compagnies ici en France ou à Marseille avec lesquelles tu aimes travailler, ou qui développe un peu aussi cette philosophie?
Oui, bien sûr, il y a plein de compagnies avec qui on se croise et qui développent aussi plein de choses très intéressantes. Après, je pense qu'aussi, même, comment dire, moi aussi, je suis aussi dans un positionnement différent quand on est à l'étranger. Je pense que moi, quand je suis à l'étranger, je suis aussi une étrangère. Donc, j'arrive aussi pour découvrir des choses, pour collaborer, pour me mettre au service. Et finalement, en France, mais c'est peut-être un tort, mais j'ai peut-être plus tendance à essayer de porter mon projet ou à collaborer avec des gens. Mais peut-être que finalement, je suis plus... Je sais pas. Peut-être que je suis plus dans ma bulle quelque part. Je sais pas. Après, j'ai rencontré typiquement, je crains des gains dont on parlait tout à l'heure. J'ai rencontré des personnes super, d'autres compagnies. Et en plus, à Marseille, il y a quand même un maillage de compagnies qui sont très, très chouettes et qui font des choses super intéressantes. Donc, oui.
Je change un peu de sujet, mais je sais qu'aujourd'hui, la biche volante, vous travaillez aussi un peu avec les entreprises, avec les administrations. Enfin, en gros, vous essayez d'aller porter cette pratique du théâtre forum appliquées à l'égalité homme-femme sur des publics qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense, mais qui méritent aussi d'être sensibilisés. Oui. C'est quoi un peu cette nouvelle démarche de la biche
Ouais, ça c'est une demande qu'on a eue en fait. Au début, on a été contacté par les impôts et qui nous ont demandé si on pouvait venir, qui ont vu qu'on parlait de ça, de l'égalité homme-femme via le Théâtre Forum. Et donc on a eu un projet avec eux. On était lauréat à un prix pour l'égalité femmes-hommes, enfin lauréat à une bourse pour l'égalité femmes-hommes de l'État. Et du coup, on développe un petit peu ça dans les entreprises, dans d'autres administrations publiques. Et c'est Et sincèrement, c'est passionnant, en fait, parce que justement, ça va être... c'est un endroit où les gens ont vraiment un besoin, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des problématiques, en fait, qu'il y a des problématiques d'égalité femmes-hommes. Ils ont des directives avec des points à remplir et voient bien qu'ils ne remplissent pas tout. Et ils sont finalement un petit peu démunis. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que nous, on arrive avec une forme d'expertise et puis un outil qui est le Théâtre Forum pour aborder ça de manière justement où on va donner la parole aux gens et on ne va pas juste arriver pour leur dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, où on donne la parole. Le Théâtre Forum, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment créé à base de situations réelles. Donc chacun va venir avec une situation, en général une situation d'oppression qu'il a vécue ou qu'elle a vécue, et on va la mettre au travail et essayer d'imaginer une meilleure solution. Donc en plus, pour ce genre de public, c'est très intéressant parce qu'ils ont un peu des directives et ils ont vraiment des envies de résultats, en fait. Et même, ils ont vraiment envie que ça puisse déboucher sur des chartes très concrètes qu'ils peuvent mettre au travail. Et du coup, l'outil du Théâtre Forum, c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi de faire des tests ensemble, de manière collégiale, un peu d'utiliser l'intelligence collective pour après déboucher sur des idées très concrètes. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est un public différent, mais moi, ça me passionne.
Donc concrètement, tu te retrouves face à des collèges de cadres, d'exécutifs,
ouais, exactement,
qui sont peut-être souvent des hommes un peu âgés.
Ouais, tout à fait.
Tu leur fais faire des scénettes de Théâtre Forum et eux, ils réagissent comment
Déjà, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours, même dans un collège de cadre A, il y en a toujours quelques-uns qui sont très bons en théâtre. Donc il y a toujours deux, trois personnalités qui sortent et qui en fait sont hyper bons et qui sont ravis de faire leur petit spectacle de théâtre. Donc ça, c'est très agréable. Et après ça, ça crée des discussions qu'il n'y avait pas forcément. Et par exemple, une de nos interventions, à un moment, il y a eu toute une discussion sur le café, sur les femmes qui disaient « moi, j'ai beau être cadre A, j'ai l'impression que c'est plus souvent moi qui sers le café ». Et donc, elles en discutent, elles étaient toutes d'accord, etc. Et quand on a présenté la scène, il y a vraiment des hommes qui ont dit « mais c'est totalement faux, c'est totalement cliché de dire ça ». Et là, il y a eu un murmure de réprobation dans la salle. Toutes les femmes qui ont fait « et c'était incroyable, moi, de voir, j'étais en face de ça, de voir la scène, de dire « ok ». Et en fait, la personne qui a dit ça, qui était, je ne sais plus responsable de quoi, mais qui était assez, qui avait un poste assez, en termes de RH assez haut, et qui, du coup, a... était surpris, en fait, était hyper surpris d'entendre ce brouhaha derrière lui. Et ça s'est senti qu'il s'est dit « mais attends, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas capté, en fait ». Et après, quand on s'est re-retrouvés, il avait beaucoup changé, d'ailleurs.
Ouais.
Il avait, pour le coup, alors, ce n'est pas toujours des happy ends comme ça. Il y a des personnes qui restent, qui ont l'impression que c'est inutile. Mais en tout cas, lui, cette personne-là, je me rappelle très bien, avait vraiment compris des choses qu'il n'avait pas compris. Et du coup, je pense qu'il a repensé après des choses. Et aussi, c'est intéressant parce qu'effectivement, des fois... ça m'est arrivé d'être avec des dirigeants qui étaient que hommes et qui s'excusaient un peu, qui étaient « bon, désolé, on n'est que des hommes, mais vraiment, on est pour l'égalité femmes-hommes ». J'étais là « oui, j'en doute pas ». Et du coup, c'est intéressant aussi de donner vraiment une occasion d'agir, en fait. Aussi une occasion de leur dire « ok, vous êtes cinq hommes, à la direction, vous en êtes désolés, mais c'est quand même ça la réalité, donc... bah, venez, on en parle et on essaye de voir peut-être quels sont les freins qui font qu'on en arrive à cette situation-là, quoi ».
Ouais, parce qu'en fait, le propre du Théâtre Forum, c'est aussi d'essayer des situations. Parce que parfois, quand on est victime ou dans une situation où on est victime d'une agression, on n'est pas en mesure de répondre pour des raisons de sidération ou autre. Le Théâtre Forum va permettre de tester dans une forme de safe place, protéger un peu par ta formatrice, d'essayer un peu à quoi ça ressemble si jamais je réagis différemment, si je ne suis pas sous le coup de l'émotion et tout ça. Et c'est en fait un entraînement qui permet derrière d'être un peu plus forte, un peu plus fort, un peu plus armée sur... pour la prochaine situation qui va se produire, quoi.
Ouais, complètement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ces moments-là où on s'est dit « mince, j'aurais dû dire ça, et là, du coup, on a l'occasion de le refaire. Et aussi, il y a beaucoup de réparations symboliques, en fait. Et c'est des choses qu'on vit dans son corps. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en théâtre forum, on fait ce qu'on veut. Et donc, quand on change la scène, on rejoue la scène, donc où en général, il y a donc un oppresseur, un opprimé. Et on remplace, en général, on remplace plutôt l'opprimé que l'oppresseur, parce qu'on dit, c'est pas magique, en fait. Donc, dans la vraie vie, il va pas changer comme ça ton oppresseur. Donc, c'est plutôt toi, qu'est-ce que tu fais. Mais aussi, souvent, il y a des témoins dans la scène. Donc, des fois, on va remplacer un témoin. Donc, ça peut aussi se dire, OK, qu'est-ce que moi, si j'assiste à une scène, comment je peux agir? Et des fois, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, je sais pas, par exemple, une fois, on avait fait une scène où il y a une personne qui agissait pour défendre une de ses collègues, et finalement ça c'était pire en fait. Et donc aussi des fois, ce qui est intéressant dans le théâtre forum, c'est de se dire ok, d'y aller par exemple hyper frontalement, des fois ça marche pas. Du coup, je sais plus, il y avait une scène comme ça où elle défendait sa collègue, du coup la collègue se faisait virer parce qu'en fait elle était en période d'essai. Donc il y avait, c'est aussi c'est le théâtre forum, c'est pas magique dans le sens où c'est pas on a une solution qui marche pas, on trouve la solution, pas du tout. Des fois on n'a pas de solution. Des fois on a essayé plein de choses, on a eu plein de pistes. On essaye de s'arrêter quand il y a eu quelque chose d'un peu satisfaisant, mais des fois on est justement sur la difficulté et la contradiction, quoi. Et après aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le collectif, donc on peut aussi faire venir des gens. Par exemple, notamment une fois, on avait travaillé avec des personnes handicapées qui ont des handicaps mentaux, et du coup qui peuvent être plus victimes d'agressions, en fait. Et c'était très intéressant. Donc on leur faisait créer leur ogresse, leur déesse qui va les défendre. Et ce qui était chouette aussi, c'est de dire, OK, elles présentent la situation où elles ont été seules face à un agresseur. Et là, en fait, il y a tout le reste du collectif qui est avec elles pour les soutenir et pour venger un peu symboliquement et donner une espèce de force. En fait, ça donne aussi une espèce de carapace invisible quand on ressort dehors, quoi. Et ça aussi, Théâtre Forum, on aime bien... Souvent, ça finit, il y a plein de monde qui monte. Enfin, souvent, la solution, c'est ça aussi. C'est qu'il y a une scène entre trois personnes, il y a le témoin qui ne va rien dire, etc. Puis souvent, le témoin dit un truc, ça ne suffit pas. Et souvent, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux monter? Oui, mais bien sûr. Et à la fin, il y a 10 personnes qui sont montées. Et oui, ça marche mieux, du coup.
Ouais. Tu préfères travailler avec quel public si tu arrives à le dire, hein, vu que tu as quand même bossé avec énormément de personnes différentes.
Non, franchement, j'aime bien tout le monde. Enfin, c'est très différent, en fait. Les enfants aussi, ils sont trop marrants. Enfin, j'aime bien aussi, on travaille sur l'égalité femmes-hommes en théâtre forum dans les écoles. Et enfin, ils sont hyper drôles aussi. Et par exemple, une fois, ils font beaucoup rire parce que des fois, ils montrent le compliqué de la situation. Par exemple, une fois, il y en avait un, il m'avait fait toute une scène sur le fait qu'il voulait acheter un t-shirt rose, enfin un polo rose, et que sa maman voulait pas. Et du coup, il y en a un tout fier qui était monté sur scène, qui avait dit « Attends, c'est moi qui paye, c'est moi l'homme, donc femme, t'achètes le t-shirt rose. » Et du coup, j'étais là « Alors attendez les enfants. » Et du coup, c'est très intéressant parce que comme ils n'ont pas de filtre aussi, et c'est des vrais miroirs de la société. Donc les enfants, j'adore. Après, travailler avec l'administration publique, c'était aussi hyper intéressant et ça a fait des discussions très, très agréables. Et après, travailler en non-mixité avec les femmes aussi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait ces dernières années et qui est hyper précieux parce que tu sens aussi que c'est un espace vraiment nécessaire, quoi. Et moi, en tant que femme aussi, me fait beaucoup de bien.
On aime bien à La Forêt parler un peu des futurs souhaitables, essayer de bâtir ensemble des images qui pourraient nous faire du bien, nous aider à avancer vers un futur qui serait pas complètement pourri. On parlait un peu de ça hors antenne. L'avantage du théâtre, c'est que c'est aussi ça, c'est aussi un endroit où tu dessines des futurs souhaitables, où tu te fais ta catharsis, où tu peux te créer ton utopie. Et on parlait du fait que y a une image qui t'a vachement marqué, de cette histoire d'utopie, à quoi pourrait ressembler, tu vois, l'utopie féministe de la biche dans des années, tu vois.
Il y a beaucoup dans la biche volante, et puis il y a beaucoup cette idée d'avoir la liberté de circulation et la liberté des corps aussi, des corps féminins notamment, dans l'espace public. Et il y a, je te racontais tout à l'heure qu'il y a cette image du film de Noémie Merlant, donc qui s'appelle Les femmes au balcon, qu'on a adoré avec Tiffany aussi, ma scénographe, quand on l'avait vu et qu'on a trouvé très, très juste dans ce qu'il racontait. Et à un moment, il y a une image où il y a toutes les femmes qui commencent à marcher dans la rue et qui sont à moitié dénudées, en tout cas qui sont très libres. C'est la nuit et elles marchent la nuit. D'ailleurs, une fois, je crois que j'avais entendu quelqu'un qui racontait ça, qui dit « Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais sortir la nuit ?» Je crois que s'il n'y avait pas d'hommes la nuit. Bon, alors l'idéal, ça serait qu'il y ait des hommes, mais qu'ils ne soient pas dangereux. Mais qu'il n'y ait aucun danger possible. En tout cas, voilà, qu'est-ce que tu ferais ? Il y en a qui disent « Je sortirais jusqu'à pas d'heure, je me promènerais, etc. » Et en fait, ça, c'est une réalité, le fait de pouvoir... de pouvoir marcher et de pouvoir dire ce qu'on veut. En tout cas, voilà, vivre, s'exprimer. Et cette image, ouais, je l'avais trouvée très, très belle. Et moi, un peu dans mon futur souhaitable, c'est ça, il y a une liberté joyeuse dans l'espace public aussi de tout le monde, y compris des femmes.
J'ai l'impression qu'il y a un autre futur souhaitable que tu travailles avec les spectacles de la biche. C'est l'idée d'humaniser les femmes et de les sortir un peu d'un piédestal très sexualisé, objectifié. Toute la notion de violence des femmes, la colère des femmes, le fait de manger.
Ouais, c'est ça, c'est de sortir aussi du... C'est sortir du tabou aussi, c'est parler vraiment de tout, même essayer d'aborder les paroles qui sont indicibles aussi, de façon, encore une fois, de façon délicate, de façon avec le consentement des personnes dont c'est la parole, etc. Mais en tout cas, il y a cette idée-là de parler de tout, y compris des... Enfin, en fait, j'estime qu'homme ou femme, on est des êtres vivants, donc on est rempli de plein de choses, on est rempli de beaucoup d'émotions, la vie n'est pas toujours simple, donc on est cabossé aussi avec ce qui nous est arrivé dans la vie. Et du coup, je trouve ça précieux de pouvoir l'explorer, de pouvoir en faire quelque chose. La magie de la catharsis au théâtre, ça permet d'en faire quelque chose de positif. Il y a aussi, moi, j'aime beaucoup le rap parce qu'il y a aussi cette magie-là où c'est des choses extrêmement violentes à la base, en général. Mais ça libère à la fois les personnes qui le font et les personnes qui l'écoutent. Et donc, voilà, il y a aussi cette idée-là dans la biche de... une idée en tout cas de libération et de sortir toutes les choses même qui peuvent être taboues et effectivement des femmes d'être ni dans cette idée que les femmes sont des plantes vertes quoi, enfin des petites personnes fragiles dans leur coin, ni non plus des folles hystériques, mais juste des êtres humains en fait avec des émotions, avec des contradictions aussi, et qu'on puisse avoir cette parole là, s'écouter entre femmes aussi. C'est quelque chose qui est aussi très important. Moi, j'ai souvent eu, je le dis parce que ça m'a marqué, on m'a plusieurs fois dit et ça va, des femmes, hein, ça va de bosser qu'avec des femmes. Je me suis dit, bah oui, c'est merveilleux en fait. Et j'ai plusieurs comédiennes qui m'ont dit, écoute, franchement, ça me faisait un peu peur d'être une équipe que féminine et c'est génial en fait. Et donc aussi, il y a cet endroit-là de réappropriation du plaisir qu'on a d'être entre femmes, et en fait l'idée de se dire aussi que ça va être l'enfer, c'est des choses qui viennent pas de nous en fait, qui viennent de l'extérieur, qu'on nous a fait croire qu'on allait être dans des trucs de rivalité, de jalousie, etc. Donc il y a aussi ce plaisir d'être dans une sororité. Et après, puisqu'on parle d'utopie, moi mon idéal c'est pas de vivre sans les hommes, et donc c'est aussi après d'être ou entre femmes si on a envie d'être que entre femmes, ou après d'être avec des hommes qui sont bienveillants, qui sont pas dangereux, qui nous écoutent, etc.
Et qui portent un petit drapeau vert au poignet.
Exactement.
Merci Justine pour cet entretien, franchement c'était passionnant.
Merci à vous beaucoup.
Et qu'est-ce qui se passe pour la biche bientôt là?
Donc il y a Délicatesse qui va avoir quelques dates à ce printemps-été, donc on sera à Marseille au Plan de A à Z, on sera au Café Villageois à Loris, on sera à Aurillac. Voilà, les dates, y aura d'autres dates, vous pouvez tout retrouver sur l'Instagram de la biche volante.
Ouais, et bientôt dans tous les jardins de Marseille et l'espace public. Merci infiniment Justine, merci Elissa pour la régie. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Galère, c'était la forêt des possibles.